Chers amis, dans le prolongement du chapitre « Je te promets fidélité », je voulais aborder avec vous une étude d'un conseiller conjugal américain, le professeur Gottman, que j'avais trouvé intéressante. Le professeur Gottman, à l'origine, c'est un statisticien qui est devenu ensuite conseiller conjugal et qui a épousé une conseillère conjugale également. Et son idée, c'était de suivre pendant de nombreuses années tout un panel de couples pour essayer de regarder si on n'allait pas trouver des comportements particuliers aux couples qui demeurent ensemble et des comportements particuliers aux couples qui se séparent. Donc l'idée, c'est d'observer pour voir s'il y a des comportements qui pourraient du coup être repérés pour aider à la perpétuation de l'unité du couple, ou qui devraient être des signaux d'alarme pour manifester que le couple est en danger. Leur étude a permis de mettre en évidence quatre comportements qui fragilisent les couples. Alors une première remarque doit être faite, c'est que ces comportements, qu'ils ont surnommés les cavaliers de l'Apocalypse, se retrouvent chez tous les couples. Voilà, que les couples se séparent ou qu'ils restent ensemble, chez tous les couples, on verra apparaître ces comportements. Seulement, dans les couples qui se séparent, ces comportements reviennent avec une fréquence élevée, tandis que dans les couples qui restent ensemble, ces comportements sont moins fréquents et plus intéressants aussi. Ces comportements voient de la part des membres du couple un effort de réparation. Ces quatre comportements sont premièrement la mise en accusation, deuxièmement le comportement défensif, troisièmement le mur de briques, quatrièmement le mépris. La mise en accusation, c'est le fait, lorsqu'il y a un différend, de mettre justement l'autre en accusation. Tu ne sors jamais les poubelles, c'est toujours moi qui les descends, tu es vraiment un gros dégueulasse, passez-moi l'expression. Et du coup, c'est la présentation du différend où l'autre est mis en accusation. Alors pourquoi est-ce que c'est un comportement qui fragilise le couple? Parce que la façon de présenter la chose fait que l'autre est le problème. Si tu fais toujours ceci, si tu fais jamais cela, ben la source du problème, c'est toi. Et donc, comment résoudre le problème, en fait? Ben, je prends ma Kalachnikov et je t'abats. Et donc, j'ai résolu le problème, puisque le problème, c'est toi. Et voilà que notre façon de présenter le différent, au lieu de parler d'un comportement qu'on pourrait essayer de régler à deux, fait de l'autre le problème, fait de l'autre la difficulté. Au lieu de présenter une mise en accusation de l'autre qui fait de lui le problème, il est conseillé en fait de parler en jeu, de parler à la première personne et d'exprimer ce qui nous dérange et le sentiment que ça provoque. C'est-à-dire, je reste avec mon exemple de poubelle qui n'est pas sortie. On peut commencer par dire son sentiment. Je suis très en colère, on a le droit d'être très en colère, je suis déçu, je suis fou de rage, je suis agacé. Voilà, on a le droit de dire tout à fait son sentiment, c'est notre sentiment. Et ensuite, on énonce la difficulté. Je suis agacé quand je rentre du travail après toi et que je me rends compte que les poubelles n'ont pas été descendues. Parce que j'ai l'impression que la tâche du ménage ne repose que sur moi. On a donc énoncé notre sentiment, on a dit quel était ce qui nous posait un problème, mais il faut encore ajouter un élément, c'est de quoi aurions-nous besoin? Et donc, quand tu rentres avant moi, ça me rendrait service que tu descendes les poubelles. Ne laissez pas l'autre essayer de deviner ce dont vous auriez besoin. S'il le devine, j'allais dire, c'est extraordinaire. Généralement, on ne devine pas, ou on fait quelque chose qui ne correspond pas à ce dont on aurait besoin. J'allais dire ce qui est encore pire, la personne s'épuise à faire quelque chose auquel vous n'accordez pas d'importance. Donc, pour sortir du comportement défensif, exprimer en jeu notre sentiment, même s'il n'est pas rationnel, c'est notre sentiment, c'est ce que nous éprouvons. Et puis, énonçons le comportement qui est problématique pour nous, et fournissons la solution, c'est-à-dire ce dont nous aurions besoin. Alors, une petite parenthèse, lorsque nous avons à parler de quelque chose de difficile avec notre conjoint, il est souvent utile de préparer le terrain. Préparer le terrain, comment ça? En disant, eh bien, j'ai quelque chose de difficile à dire. En disant, j'ai quelque chose qui est compliqué, peut-être même à dire, ou quelque chose qui est compliqué à entendre. Vous préparez le terrain de l'autre, vous préparez son attention. Lorsqu'on fait ça, même si la chose est compliquée à dire ou difficile à entendre ensuite, eh bien, l'esprit de l'autre, le cœur de l'autre a été un petit peu préparé. Et donc, il y a moins de chances que la discussion parte en dispute. Alors que si on saute sur l'autre en abordant de but en blanc la difficulté, eh bien, il y a les chances que la discussion s'envenime sont beaucoup plus fortes. Parce que dans ce cas-là, on pourrait dire on prend l'autre par surprise. Imaginez quelqu'un qui se soit glissé derrière vous à pas de loup et qui puis tout d'un coup vous crie très fort à l'oreille. Là. Vous avez le cœur qui bat, peut-être même que vous allez vous retourner et faire un geste d'autodéfense, parce que vous étiez complètement surpris. Tandis que si vous avez vu l'autre arriver, parce qu'il vous a prévenu, eh bien, la discussion a beaucoup moins de chances de dégénérer, ou en tout cas, beaucoup moins vite. Donc, premier cavalier de l'Apocalypse, la mise en accusation. Le deuxième cavalier de l'Apocalypse est un comportement qui se produit souvent face à la mise en accusation. C'est le comportement défensif. Ah bon oui, tu m'accuses, tu me dis que je suis le problème. Eh bien, je me mets en position défensive. Là, tu as sorti ton épée. Bien, moi aussi, je sors mon bouclier. Je sors également mon épée et je vais contre-attaquer. Et donc, moi, je fais jamais ceci, mais toi, tu fais jamais cela. Tu dis que moi, je suis mauvais, mais toi, tu es encore pire. Ou en tout cas, tu n'es pas mieux que moi. Et l'on est parti, du coup, dans une sorte d'échange où, là encore, on n'est pas en train de traiter un comportement, mais on est en train de se battre l'un contre l'autre, en faisant de l'autre l'ennemi, en faisant de l'autre le problème, pour dire en fait que ce n'est pas moi qui suis injuste, c'est toi qui es injuste, moi je suis juste. Et donc on part dans un cercle qui va être fermé, et qui peut même être un cercle vicieux. Alors, comment sortir du comportement défensif ? Pour éviter le comportement défensif, on pourrait dire, pour prendre une image d'arts martiaux, que au lieu de se mettre en position frontale et d'attendre la charge de l'autre quand il nous met en accusation, vous savez, la charge de l'autre, vous plantez votre bouclier et vous mettez votre lance en espérant que s'il fonce devant vous comme un sanglier, il vienne s'empaler sur la lance. Donc là, c'est pas du tout ce qu'on va faire. On va simplement faire une défense à 45 degrés, c'est-à-dire que vous allez laisser passer la violence de la mise en accusation, et peut-être même l'injustice qui est dedans. Alors ça demande d'être un peu zen, c'est vrai, et vous allez essayer de récupérer justement le comportement qui est en jeu, quand bien même on vous a mis en accusation. Et récupérer le comportement, c'est-à-dire justement, la personne, tu me dis que je ne sors jamais la poubelle, bah, c'est intéressant ce que tu me dis, tu as raison de m'en parler, discutons-en. Voilà, vous manifestez que vous avez entendu que l'autre voulait vous parler de quelque chose, et vous assumez une part de responsabilité. Parce que assumer une part de responsabilité, manifester qu'on est prêt à en parler, que ça nous tient à cœur, généralement va provoquer une baisse de l'agressivité. En effet, quand l'autre nous met en accusation, en fait, il rêverait, alors qu'il nous a, on pourrait dire, agressé en disant « Mais tu ne descends jamais la poubelle, c'est dégoûtant, tout l'effort repose sur moi, tu n'es qu'un gros dégueulasse. » Il souhaiterait, en fait, il imaginerait qu'en entendant ça, on se dise « Ah, mais en fait, c'est vrai ce que tu me dis, tu as raison, je le fais jamais. » Et je me rends compte que ça a dû te peser beaucoup, tu as vraiment raison de m'en parler. Alors c'est ça qu'il attendrait, sauf que la façon dont il l'exprime, c'est vrai, ne nous donne pas du tout envie de réagir comme ça, et nous donne plutôt envie de prendre notre bouclier et notre épée, de nous défendre et de contre-attaquer. Et donc là, il faut sortir de cette logique, mais essayer de récupérer le comportement qui a peut-être été mal exprimé, et de dire, ah oui, il y a un problème avec la poubelle, c'est vrai, de fait, j'ai peut-être une responsabilité là, et parlons-en. Et on se remet justement dans une posture de partenariat où on est ensemble pour vivre. En fait, quand même, on s'est marié, c'est-à-dire que on est face à deux personnes qui ont choisi de donner leur vie l'une à l'autre. Donc elles sont normalement bien disposées l'une envers l'autre, prêtes aussi à s'écouter, à faire des efforts. Et donc on sort du comportement défensif en laissant passer ce qu'il y avait de violent, ce qu'il y avait d'injuste, et en reprenant le comportement, en acceptant une part de responsabilité, et du coup, ben voilà, discutons de ce comportement. Donc voilà, c'est le deuxième cavalier de l'Apocalypse, c'est comment en sortir. Le troisième cavalier de l'Apocalypse, le mur de briques. Alors le mur de briques est un comportement que l'on trouve plus fréquemment chez les hommes que chez les femmes, mais pas seulement chez les hommes. À quoi correspond-il ? Eh bien, l'autre est en train d'exprimer un problème, un différend, et celui à qui on s'adresse est justement comme un mur de briques, c'est-à-dire sans aucune réaction, il ne dit rien, il semble complètement impassible, du coup, on ne sait pas comment interagir avec lui. L'une des surprises de l'étude du professeur Gottman a été notamment autour de ce comportement qui manifeste extérieurement un grand calme, de se rendre compte que du coup, le rythme cardiaque de la personne dans cet état et la transpiration de la personne dans cet état équivalait au rythme cardiaque de quelqu'un qui est en train de courir. C'est très étonnant, on s'attendait justement à quelque chose de parfaitement calme, et le rythme cardiaque et la transpiration, c'est celui de quelqu'un qui est en train de courir. Et donc, ils se sont rendus compte que cet état n'était pas du tout un état de calme, mais en fait un état où l'on est submergé par ses émotions. On est submergé par ses émotions, et donc, ne sachant pas comment réagir, eh bien on ne réagit pas, parce qu'on a l'impression que toutes les options que l'on pourrait prendre feraient empirer la situation. Alors on se dit, ben voilà, j'attends que ça passe. Dans 10 minutes, il y a sa série qui va commencer à la télévision, donc ça va s'arrêter. Voilà, c'est parce que on est submergé, on ne sait pas comment réagir, et ben on ne réagit pas. Alors quand cela se produit, c'est pas la peine d'essayer de continuer à tout prix d'arracher une discussion, parce que la personne n'en est pas capable. En fait, elle a un choc d'adrénaline, on peut dire, et vous savez que l'adrénaline, si ça nous booste pour pouvoir courir plus vite et pour nous enfuir, en fait, ça réduit notre capacité visuelle, ça réduit notre capacité auditive. Voilà, les champs sont réduits. Et pour que l'adrénaline soit évacué de l'organisme, il faut au moins 20 minutes. Donc ça ne sert à rien, si la personne est partie dans cet état-là, de reprendre une discussion 5 minutes ou 10 minutes après. Attendez plutôt une demi-heure, 40 minutes, pour que cette décharge d'adrénaline ait été évacuée. Et à nouveau, elle sera apte à une écoute, à une interaction avec des moyens plus larges, des moyens plus importants. Remarquez que le coût de la décharge d'adrénaline, c'est vrai aussi si on a commencé à s'insulter dans une discussion. Lorsque dans une discussion, des noms d'oiseaux ont commencé à être échangés, arrêtons-nous parce que nous allons simplement nous faire du mal. Là encore, on n'est plus comme partenaire, on est devenu comme ennemi et on s'attaque personnellement. Il vaut mieux faire une pause. Si vous avez besoin d'aller casser votre assiette d'un côté pour vous soulager, allez casser votre assiette, allez crier dans votre coussin, mais n'allez pas vous faire mal en vous disant des mots sordides l'un à l'autre. Laissez retomber l'adrénaline pour revenir après. Donc le face au mur de briques, la solution c'est de faire une pause pour pouvoir reprendre quand la personne aura retrouvé ses moyens. Quatrième cavalier de l'Apocalypse, le mépris. Alors ce quatrième cavalier, c'est même le plus dangereux, c'est-à-dire c'est celui qui laisse le plus de traces amères, et donc celui qui a le plus besoin d'une réparation. Bon, je le répète, on trouve ces comportements chez tous les couples. Ça, de temps en temps, ça transparaît, mais chez les couples qui demeurent ensemble, il y a une vigilance pour ne pas laisser l'expression d'un mépris sans réparation. Alors le mépris, qu'est-ce que c'est ? Ben, le mépris, c'est justement, face à l'autre qui s'exprime, de répondre en disant « Mais vraiment, tu dis n'importe quoi, mais t'es complètement folle, ma pauvre fille, c'est ridicule ce que tu dis, vraiment, qu'est-ce que c'est stupide !» Et puis ça peut se manifester par des paroles, mais ça peut se manifester aussi par des expressions, hein. C'est les yeux levés au ciel, c'est un énorme soupir, je hausse les épaules, je me tape la main contre la tête en disant « mais tu es vraiment débile ». Il y a parfois même des manières subtiles dont le mépris peut être exprimé. Voilà, la personne est en train de vous expliquer son problème, et puis vous réagissez simplement pour le dire non, en français on dit pas ça comme ça. Voilà, vous la reprenez sur une expression grammaticale ou sur un mot qui est utilisé et qui manifeste que vous n'êtes pas du tout dans l'écoute du point qu'elle veut avancer, mais vous êtes en train d'être tatillon sur la forme. Là, c'est une sorte de mépris. Et le mépris est dangereux. Parce que, là encore, au lieu que nous soyons partenaires l'un de l'autre, il y en a un qui se manifeste comme supérieur à l'autre. C'est pour cela qu'il fait particulièrement mal. Donc lorsqu'on se rend compte qu'on s'est montré méprisant vis-à-vis de l'autre, il y a une réparation qui est nécessaire. Le fait de reconnaître sa responsabilité, de reconnaître qu'on s'est montré méprisant. Mais je parle de réparation, là encore, il y a une remarque à faire. C'est qu'ils se sont rendus compte, le docteur Gottman et son épouse, que de temps en temps, ils étaient face à des réparations qui étaient acceptées et face à des réparations qui n'étaient pas acceptées. Parfois même, il y avait des demandes de réparation qui étaient dans leur forme, dans leur expression extrêmement bien tournée, un conseiller n'aurait pas fait mieux, et pourtant elles n'étaient pas acceptées. Et d'autres fois, des réparations vraiment très maladroites dans leur forme qui étaient acceptées, qui étaient validées. Et donc, ils font valoir que l'acceptation d'une demande de réparation ne dépend pas que de la qualité de sa formulation. Elle dépend aussi de la disposition de celui qui a été blessé à accepter la réparation. Voilà, plus il est disposé à accepter la réparation, plus la réparation sera acceptée. Et donc ça les a amenés à réfléchir à la chose suivante. Qu'est-ce qui facilite cet état de disponibilité à accueillir une demande de réparation? Le premier élément qui favorise cette disponibilité à accueillir la réparation, c'est le fait que les deux soient à jour sur ce que je pourrais appeler leur carte affective. Être à jour sur ta carte affective, c'est je sais quel est l'événement qui est le plus heureux pour toi, ou au contraire l'événement qui t'a mis le plus mal à l'aise, ce dont tu es le plus fier. Je sais un peu comment tu te projettes dans 5 ans, ce que tu souhaiterais, ce que tu imaginerais. Je sais quel est ton livre ou ton film préféré, ce que tu n'aimes pas. Voilà, je suis au courant, je suis à jour au niveau de tes projets, de tes goûts. Et le fait d'être au courant de tes projets et de tes goûts maintient une qualité d'intimité entre nous, et donc une disponibilité aussi à accueillir ces réparations lorsque cela est nécessaire. Alors c'est un véritable effort hein, que d'être à jour de la carte affective de l'autre. Parce que aujourd'hui, là, vous vous mariez, donc normalement vous êtes assez bon sur cette carte affective de l'autre. Vous connaissez ça assez bien. Mais dans 5 ans, ça a pu tout à fait évoluer. Est-ce que vous serez encore à jour? Ça vaut le coup de vérifier. Ça vaut le coup de vérifier. Et si on a du mal à retenir ce qui est important, et l'autre nous a la fait remarquer, tu retiens jamais les dates importantes de fête ou d'anniversaire, alors que ça me tient très à cœur, eh bien, prenons des notes. Notons ce qui est important, parce que ça vaut le coup, c'est un investissement qui vaut le coup pour la pérennité de notre couple. Donc, premier élément, être à jour sur la carte affective de l'autre. Deuxième élément, une réponse aux sollicitations d'attention qui nous sont envoyées par l'autre. Une réponse aux sollicitations d'attention qui nous sont envoyées par l'autre. Qu'est-ce que c'est une réponse à une demande de sollicitation ? Imaginez-vous, vous êtes tous les deux dans un jardin, il y en a un des deux qui est en train de lire, et puis pas très loin, là il y a un fleuve, il y a une péniche qui passe, et puis... Celui qui regardait dit « Tiens, il y a une péniche qui passe. » Eh ben, comment est-ce que vous allez réagir? Vous pouvez ne pas réagir du tout, vous continuez à lire, vous n'avez pas répondu à la sollicitation d'attention. Ou bien vous pouvez réagir en disant « Mais tu vois pas que je suis en train de lire ?» Alors là, vous manifestez même que l'autre, c'était l'ennemi. Là, en demandant votre sollicitation, en sollicitant votre attention, il s'est placé comme un ennemi pour vous. Vous pourriez aussi lever les yeux de votre livre, regarder, et puis les replonger dans votre livre. Vous n'avez pas dit grand-chose, mais en tout cas, vous avez manifesté que vous aviez entendu. Vous pourriez aussi réagir en disant, vous posez le livre et dites « Ah oui, une péniche, ah, c'est fantastique, on devrait faire une croisière par travers toute l'Europe en péniche, ce serait extraordinaire. » Ou vous rentrez, on pourrait dire complètement peut-être dans la rêverie de l'autre, bon pourquoi pas. Vous pouvez aussi répondre à l'attention de l'autre en disant, regardant, ah oui, tiens, une péniche, mais tu sais, là j'ai besoin absolument de terminer ce chapitre, et j'aurais besoin vraiment de 15 minutes de tranquillité. Dans ce dernier cas, à la fois vous avez pris en compte la demande de sollicitation de l'autre, et vous avez exprimé aussi le besoin que vous aviez. C'est important que accueillir la sollicitation de l'autre n'empêche pas non plus d'exprimer ce dont nous avons besoin. Mais du coup, nous n'avons ni méprisé l'autre, ni considéré l'autre comme un ennemi. Nous avons réagi à sa demande de sollicitation, nous nous sommes montrés présents, et en même temps nous avons exprimé ce dont nous avions besoin. Parce que plus on sera présent aux demandes de sollicitation de l'autre, plus l'autre, un peu naturellement, le sera pour nous. Si justement nous ne répondons pas à ces demandes de sollicitation, lorsque nous aurons besoin de son attention pour accueillir notre réparation, l'autre risque de réagir de la façon suivante. Eh bien, tu vas voir comme c'est désagréable quand on demande l'attention et qu'on ne l'obtient pas. Je vais te faire mariner un petit peu, tu vas un peu mariner dans ton jus, tu me demandes mon attention pour présenter une réparation, je suis pas prêt à t'entendre, je suis pas prêt à t'entendre tout de suite. En quelque sorte, l'autre nous rend la monnaie de notre pièce. Donc je reprends, pour faciliter l'accueil des demandes de réparation, être à jour de la carte affective de l'autre, et être présent pour répondre aux demandes de sollicitation de l'autre. Ce sont deux facteurs qui facilitent grandement l'accueil des réparations lorsque on en a besoin. Voilà ce que je voulais évoquer avec vous sur ces 4 cavaliers de l'Apocalypse. Cela m'avait semblé intéressant comme approche. Je rappelle aussi une petite statistique que j'avais évoquée dans beaucoup d'entretiens avec les différents couples de fiancés, en rappelant que cette statistique qu'on retrouve chez tous les couples, qu'ils demeurent ensemble ou qu'ils se séparent, les deux tiers des motifs de différends ne sont jamais résolus. Il y a donc bien un tiers de ces motifs qui trouvent une solution, mais deux tiers de sujets demeurent toujours délicats. D'où l'importance de pouvoir s'accueillir dans la différence. Voilà, la pérennité du couple n'est pas due à une absence de différends, mais à la façon dont ces différends vont être assumés, à la façon dont on est capable d'accueillir l'autre dans sa différence, à la façon aussi dont on est capable d'apporter une réparation lorsque on prend conscience qu'on a vécu l'un de ces quatre cavaliers de l'Apocalypse. Je termine là ce petit enseignement sur les cavaliers de l'Apocalypse.